Nous allons prier. Seigneur, oui, quelle grâce de recevoir cet amour qui vient de ta part. C'est vrai que nous n'avons rien mérité pour avoir cette vie éternelle, mais tu as déjà tout accompli pour nous. Nous voulons vraiment te remercier. Seigneur, maintenant, ouvre notre cœur aussi pour que nous puissions aussi écouter ta parole, pour progresser, pour croître, pour porter des fruits. Et Seigneur, sois avec nous, au nom de Jésus. Amen. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir dans les Actes, chapitre 11. C'est l'histoire de Paul qui rentre au pays, c'est-à-dire à Jérusalem. Il a fait plein de voyages, et puis là il passe dans le chapitre 21, il passe à Césarée, et quand il rencontre ses amis, notamment Philippe et aussi ses quatre filles qui sont des prophétesses. Et puis il rencontre aussi un prophète qui s'appelle Agabus. Et cet Agabus lui dit, écoute, donc au verset 21, il dit, il prend la ceinture de Paul, il se lie les pieds et les mains, et dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit, l'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem, et le livreront entre les mains des païens. Voilà donc. Il était sur le point d'aller à Jérusalem. Il était sur le point de rentrer à Jérusalem pour faire les cultes. Et il entend cette prophétie comme quoi il va souffrir s'il va là-bas. Et puis d'ailleurs, ses amis qui ont entendu ce message, ils disent à Paul, ils ont supplié Paul de ne pas monter à Jérusalem. Parce que voilà, il allait être emprisonné, qu'il allait vivre des moments difficiles. Qu'est-ce que vous auriez fait, vous, si vous savez que si vous allez dans un certain endroit, vous allez souffrir? Comment vous faites? La réaction normale, c'est de d'esquiver, ou ne pas y aller carrément. Mais Paul savait qu'il avait vraiment un grand amour pour son peuple. Il voulait aussi annoncer le bon message. Et il répond à ses amis qui l'empêchent d'y aller. Il dit, mais que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur? Je suis prêt. Sommes-nous prêts? Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus-Christ. Voilà donc l'histoire de Paul qui est prêt à rentrer dans ce pays-là pour souffrir, pour souffrir. Effectivement, il va à Jérusalem, il allait surtout à Jérusalem aussi pour rencontrer les frères. Il a rencontré Jacques, la colonne de l'église de Jérusalem, ainsi ses autres frères, les apôtres, pour leur exposer ce que le Seigneur a fait dans son ministère, dans les autres pays. Il a exposé que voilà, le Seigneur a fait beaucoup de grâce aux païens et beaucoup se sont convertis et ont accepté le Seigneur Jésus-Christ. C'était une nouvelle réjouissante pour les chrétiens de Jérusalem. Et là, il est encore resté à Jérusalem pour faire le culte. Et puis, pendant tous ces moments de purification où il est dans le temple, il rencontre d'autres juifs fanatiques venant d'Asie qui ne l'aimaient pas, qui détestaient Paul. Et donc ces juifs fanatiques contre les chrétiens voient un jour Paul en ville en compagnie de Trophime, un grec d'Éphèse. Et donc c'était une excellente occasion aussi pour l'accuser. Et donc il porte une accusation fausse contre l'apôtre en disant au peuple que voilà, ce Paul annonce une nouvelle bizarre, par exemple une doctrine contre Moïse, contre notre loi, contre... Et puis, il a même fait entrer un étranger dans le temple, alors qu'à l'époque, ce n'était pas du tout permis. Alors, sachez que dans le temple à l'époque, dans le temple de Jérusalem, il y avait une cour extérieure et une cour intérieure. Une cour extérieure était permise que les païens entrent, ils avaient le droit en tout cas d'entrer, et, etc. Mais avant d'entrer dans la cour intérieure, il y avait des pancartes rédigées en grec et en latin sur la barricade qui sépare la cour intérieure et de l'extérieur. Et un archéologue a découvert des scripts qui étaient marqués dessus. Là, il y avait marqué « Aucun étranger n'est autorisé à pénétrer au-delà de la barricade qui entoure le temple et son enceinte. Quiconque sera pris en flagrant délit de contravention sera mis à mort et ne pourra s'en prendre qu'à lui-même. » Voilà donc, historiquement déjà, les étrangers ne pouvaient pas entrer. D'ailleurs, ce grec n'est jamais entré dans la cour de l'église, le temple. Mais voilà, les juifs venant d'Asie accusent Paul. La foule s'agite, le prend, le sort à l'extérieur du temple pour le lapider, pour le faire mourir. Il y a eu une grande tumulte. Les gens ont crié à mort, cet homme. D'ailleurs, ils ne savaient même pas pourquoi ils voulaient le tuer. Vous savez, parfois, dans l'euphorie de la foule, on peut faire des choses bizarres. Et puis, les soldats avec des officiers, les Romains en tout cas, qui avaient les autorités de l'époque, qui étaient les autorités de l'époque, se précipitent dans la foule et voient donc ce Paul vivre en tout cas des moments difficiles. Il le prend à part, il le protège, parce qu'il voulait savoir pourquoi la foule voulait le tuer, et puis, en tout cas, pour le mettre à part. À ce moment-là, Paul encore s'adresse aux Romains en disant « Est-ce que je peux parler encore une fois à la foule pour m'expliquer ?» Et il leur permet de parler. Ainsi, il témoigne encore de ce que le Seigneur a fait vraiment. Pour se défendre. Voilà un peu l'histoire de chapitre 21, acte chapitre 21. Ce qui est intéressant ici, c'est que Paul savait très bien ce qui lui allait arriver. Mais il était serein, il était calme, il ne s'est pas enfui. Malgré les tribulations, malgré les épreuves qui les attendaient, il ne s'est pas arrêté. Il est allé. Il est allé surtout pour annoncer l'Évangile. Paul était prêt à aller à Jérusalem malgré les prophéties de la persécution et de la tribulation. Voilà donc quelqu'un qui était courageux, quelqu'un qui était prêt même à donner sa vie pour Dieu. On va voir maintenant un autre exemple, c'est dans Matthieu 8. Si vous avez du temps, vous pouvez aussi lire dans Psaume 46. Matthieu 8, à partir de verset 23 jusqu'au verset 27, c'est l'histoire de Jésus avec ses disciples dans la barque, avec la tempête. Vous voyez, vous connaissez un peu cette histoire. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, Désiré nous a apporté un message sur ce passage. Voilà, donc nous sommes ici devant un texte que nous connaissons bien, sans doute déjà pour la plupart. Et nous sommes peut-être nombreux à l'avoir souvent médité lorsque nous traversons des moments difficiles. En résumé, cette histoire, c'est Jésus et les disciples sont dans la barque et Jésus est assoupi et la tempête se lève. Les vagues menacent de submerger la barque et les disciples prennent peur et réveillent Jésus. Celui-ci donc calme le vent et la mer et ses disciples sont le vent et la mer et ses disciples sont émerveillés par ce miracle. Voilà donc Jésus qui apporte une réponse à leur prière. Il a calmé la tempête, il a intervenu dans les moments difficiles. Et tout ça, c'est vrai, et ça se passe vraiment, réellement. Mais j'aimerais ce matin mettre l'accent sur la crainte des disciples. La crainte des disciples, la peur que nous pouvons avoir. Essayons de reprendre le récit. Jésus est dans le bateau avec ses disciples. Il cherche à traverser le lac de Galilée lorsque la tempête la tempête se lève. Elle est brutale, très violente aussi. Et l'évangile nous dit que si forte que le bateau était recouvert par les vagues, et lui, donc Jésus, il dormait. Nous sommes donc, nous voyons un peu le contraste, voilà, le bateau qui s'agite et puis Jésus qui s'endort. Une tempête qui menace qui menace d'engloutir le bateau, qui souffle fort, qui mouille même le bateau, et puis Jésus est tranquille, il dort. Et à ce moment-là, les disciples sont paniqués, hein, c'est normal. Qu'est-ce que vous auriez fait à leur place? Qu'est-ce que vous auriez fait à leur place? Comment? La même chose. D'accord, oui, la même chose, oui. Oui. Bah oui, moi je serais paniqué aussi, hein, quand je vois quelque chose. Si on est menace de mort, oui, on est paniqué. Pourtant, ils viennent de voir juste à l'instant que Jésus avait guéri les lépreux. Ils viennent de voir à l'instant qu'il a même guéri la belle-mère de Pierre. Il a même vu à l'instant même que les possédés étaient délivrés. Ils ont vu des miracles. Pourtant, devant cette tempête, ils oublient que le Seigneur est avec lui, au départ en tout cas. Et puis, c'est seulement à la fin que, quand ils ne peuvent plus, ils viennent auprès du Seigneur et disent « Seigneur, sauve-nous, nous sommes perdus !» Voilà donc la version dans Matthieu. Dans Marc, Marc nous rapporte la scène un peu autrement, il dit « Il se réveille, et il le réveille, et lui dit « Maître !» Nous sommes perdus et tu ne t'en soucies pas. C'est comme une plainte. Hein? Mais qu'est-ce que tu fous en fait? C'est ça en fait. Qu'est-ce que tu fous? Nous, on est en train de mourir. Là, ils ont peur. Ils ont peur. Ils ont peur de mourir. Et là, vous savez, la peur apporte une certaine agressivité envers les autres. Hein? Quand on n'est pas bien, on devient agressif. On n'est pas dans l'aisance, on devient désagréable. Et là, ils en volent à Jésus. D'ailleurs, nous aussi, quand tout va mal, qu'est-ce qu'on devient? On devient très pénible. Non? Enfin, en ce qui me concerne, oui. Quand ça ne va pas bien, je me sens très, très mal et puis je deviens désagréable. Désagréable. Je pense que Laetitia peut confirmer. Et puis même, on pourrait faire des prières comme ça au Seigneur en disant, avec la prière de psaume 13, « Mais jusqu'à quand, Seigneur, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand te détourneras-tu de moi? Jusqu'à quand aurai-je des soucis et chaque jour de chagrin au cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds-moi, Seigneur mon Dieu. » Voilà donc une sorte de reproche qu'on pourrait faire vis-à-vis du Seigneur, avec la parole de Dieu, bien sûr. Et là, donc ils attendent que Jésus réalise tout de suite le miracle, mais au lieu d'agir tout de suite, Jésus commence par leur parler et leur faire des reproches. Et les reproches que Jésus a fait, c'est « Pourquoi êtes-vous si peureux, gens de peu de foi ?» La peur est liée avec la foi, d'après le Seigneur. « Pourquoi êtes-vous si peureux, gens de peu de foi ?» La peur est liée vraiment souvent aussi avec un manque de foi, ou peu de foi. En tout cas, c'est une reproche sévère de la part du Seigneur, Jésus. Qu'est-ce que vous avez peur en ce moment? Je vois des gens qui ont une certaine crainte. Ils ont peur des épreuves, ils ont peur des échecs. Parfois, en tout cas, je vois certains de proches qui ont vraiment peur même d'aller à l'école. Ils ont peur de rater sa vie. D'autres ont peur de rencontrer une mauvaise personne. D'autres ont peur d'être abandonnés. D'autres ont peur de mourir. Or, le Seigneur dit, la peur est le contraire de la foi. Pourquoi Jésus a pu bien dormir malgré la tempête? Tout simplement parce qu'il avait une totale confiance en son Père. Il avait une totale confiance en son Père. Et puis d'ailleurs, en reprochant auprès de ses disciples, il veut que ses disciples deviennent un peu comme leur maître, c'est-à-dire avoir une totale confiance en Dieu. Voilà donc une véritable foi, ça veut dire une véritable confiance en Dieu. Et la question que j'aimerais nous poser, c'est est-ce que nous sommes prêts à continuer à croire, à faire confiance à Dieu, malgré les circonstances difficiles, malgré les épreuves qui nous attendent, comme ce Paul qui, malgré les informations qu'il a eues avant la tribulation, il est allé quand même. Est-ce que nous sommes prêts à persévérer dans la foi, à faire confiance, alors que la situation ne change pas? Vous savez, on espère que la situation change complètement, que Dieu exauce notre prière, mais parfois, vous savez, Dieu reste silencieux. Mais est-ce que nous sommes vraiment capables d'être persévérants dans la foi? En Corée, je suis français mais aussi je suis coréen, en Corée nous faisons 2 ans de service militaire, c'est une obligation, donc heureusement j'ai pas fait parce que j'habite en France, merci Seigneur, j'ai pas perdu 2 ans pour rien. Et puis quand vous faites les 2 ans de service militaire, on leur permet le dimanche de pratiquer leur religion. Donc, s'il y a des bouddhistes, ils peuvent aller dans des temples bouddhistes. Si vous êtes chrétien, vous pouvez aller faire votre culte dans une église protestante ou catholique. Voilà, donc, il y a une certaine liberté religieuse chaque dimanche. Et puis, en général, même si vous n'êtes pas chrétien, beaucoup de soldats vont à l'église parce qu'il y a beaucoup de cadeaux, apparemment. Donc il y a beaucoup de, vous savez, les soldats, bien sûr, ils mangent à leur faim, mais quand on leur distribue des bons bonbons ou des gâteaux, etc., c'est sûr qu'ils y vont là-bas. Donc il y avait pas mal de cadeaux qui leur étaient réservés. Et puis, donc le premier jour, donc le supérieur dit aux gens combien de personnes vont aller faire le culte. Donc il y avait à peu près 25 personnes. Mais ce supérieur était un athée. Il y avait 25 personnes, après avoir fait leur culte, là, ils trouvent des motifs pour les persécuter. Hein, ils ont fait faire plusieurs tours, seulement ceux qui ont fait l'église. La semaine d'après, ils posent encore la question, qui veut faire le culte ? Là, 25 personnes, ça a diminué à 10 personnes. Et puis Roblox, pareil, hein, ils ont fait faire plein de tours, ils étaient vraiment crevés à la fin de la journée. Et puis ainsi de suite, jusqu'à un mois s'est passé. Et puis il ne restait que 2 personnes. 2 chrétiens, malgré la persécution, étaient prêts à aller à l'église et puis subir ces persécutions. Après, le supérieur a dit, à ces 2 personnes, maintenant, vous pouvez y aller librement, vous pouvez rester même jusqu'à la fin de la journée, puisque vous êtes des vrais chrétiens. Hein? Les autres, vous, ne songez pas à aller à l'église, quoi. Est-ce que nous sommes vraiment prêts à subir des injustices à cause de notre foi? J'entends pas mal de témoignages où, quand nous prônons les valeurs chrétiennes, surtout à l'école, nous sommes aussi persécutés parce que nous n'avons pas les mêmes valeurs. Et puis, nous avons entendu aussi au début de cette année, à travers portes ouvertes, des témoignages où les chrétiens dans les pays musulmans souffrent beaucoup. Nous savons très bien que les chrétiens sont, les chrétiens sont les plus persécutés dans le monde. C'est la première religion la plus persécutée. Mais malgré cela, est-ce que nous sommes prêts à continuer à persévérer dans notre foi? Ou par la peur, est-ce que nous renions le Seigneur? Dans Matthieu 5, il est dit que « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » Là, il est en train de dire que le Seigneur Jésus est en train de dire « La persécution à cause de moi, c'est normal. » Si vous travaillez pour le Seigneur, si vous voulez vivre dans la sainteté et qu'on vous persécute, c'est normal. Vous aurez une grande récompense après, à la fin. D'ailleurs, Wesley, vous savez, vous connaissez Wesley, donc le fondateur des méthodistes. Wesley, quand il prêchait dans la rue et qu'il n'y avait aucune persécution de la part des gens, ben, il se repentait en disant « Mais qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur? Pourquoi on ne me persécute pas ?» Hein? Alors que on devrait nous persécuter normalement. Oui, si nous vivons vraiment selon le cœur de Dieu, nous sommes obligés d'être en contradiction avec l'idéologie du monde. Donc, on est obligé d'être persécuté. D'ailleurs, dans 2 Timothée 3, 12, il est dit « Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Voilà, on prend la sainteté, on veut vraiment vivre selon les commandements de Dieu, et là, nous serons persécutés aussi. Je disais que la peur vient parce qu'on ne fait pas confiance à Dieu. Ne pas faire confiance à Dieu, c'est aussi un péché. C'est un péché. D'ailleurs, si on ne fait pas confiance à Dieu, j'imagine un petit peu la souffrance qu'il doit endurer. Je prends un exemple. Dans mon couple, c'est un exemple, hein, c'est pas vrai. Hein. Imaginons que ma femme ne me fait pas confiance. Je serais vraiment triste. Hein. En tant que chef de famille, en tant que mari, je serais vraiment triste. Et si mes enfants ne me font pas confiance, je serais vraiment triste. Si mes collègues de travail, si vos collègues de travail ne vous font pas confiance, vous serez triste aussi, non? Imaginez quelle tristesse Dieu doit avoir, doit se sentir, quand nous, on manque de confiance à Dieu. Si on ne vit pas par la foi, ça veut dire qu'on vit par la peur. Et la peur même peut devenir une sorte de phobie, jusqu'à aller jusqu'aux phobies. Je prends un exemple de parabole de semeur. Oui, nous sommes chrétiens, nous essayons en tout cas de bien vivre, persévérer dans la foi. On peut se réjouir, mais dans cette parabole de semeur, à cause des tempêtes, à cause des épreuves de la vie, la joie peut disparaître. Mais à ce moment-là, il faut vraiment continuer à être dans la parole, s'enraciner dans la parole, pour que le Seigneur nous donne vraiment le courage de continuer d'avancer. Dans 1 Corinthiens 15, il est dit « Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire ». La victoire, c'est ce Seigneur Dieu qui nous donne la victoire. Dans 1 Pierre 5, 7, il est dit « Déchargez-vous sur lui tous vos soucis. Si les fardeaux vous empêchent d'aller de l'avant, vous empêchent d'être libre, le Seigneur vous dit « Déchargez-vous sur lui tous vos soucis, et car lui-même prend soin de vous. » Vous savez que mes filles, lorsque nous allons au restaurant, elles ne s'inquiètent pas après avoir mangé comment payer la facture. Parce qu'ils savent que le papa est avec elle. Pareil, si nous savons que le Seigneur est avec nous, pourquoi craindre? Pourquoi craindre? Vraiment, je nous invite à regarder 24 heures sur 24, regarder vers le Seigneur. Parce que si nous fixons nos regards vers la tempête, là, ça ne va pas. Regardons l'histoire de Pierre qui a marché sur l'eau. Hein, en voyant Jésus marcher sur l'eau, il demande, et puis Jésus permet, et il fait quelques pas lorsqu'il a fixé son regard vers Dieu, vers Jésus. Et puis quand il y a des tempêtes qui se lèvent, vous savez que au moment où il a marché, il y avait toujours des tempêtes. Mais il n'a pas regardé toutes ces tempêtes, toutes ces vagues gigantesques. Il a regardé tout simplement Jésus. La situation n'avait pas changé, il a juste changé son regard. Et là, il commence à s'enfoncer. Parce que la confiance diminue, la foi diminue. Voilà. Parfois, oui, la situation ne change pas, c'est seulement notre regard qui change. Regardez le fils prodigue. Avant, il ne supportait plus d'être à la maison. Et il ne supportait plus non plus son papa. Hein? Le monde était beaucoup plus séduisant. Mais après avoir tout dilapidé ses biens, la situation n'avait pas changé. La maison restait intacte, le père restait le même, mais sa façon de voir a changé. Sans la peur, avec la foi, le Seigneur nous montre le chemin à marcher. D'ailleurs, Jésus vient auprès de Pierre, qui a marché sur l'eau, sur les eaux, quelques instants pour rejoindre Jésus. Et puis, après l'avoir vu s'enfoncer, il dit, « Homme de peu de foi, encore une fois, peu de foi, pourquoi as-tu douté ? As-tu douté ? Faisons confiance à Dieu. Ayons vraiment cette certitude que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même les épreuves, dans la patience, le Seigneur nous rendra en bien, nous transformera en bien. Je conclue. D'une certaine manière, cette confiance est le secret de la vie chrétienne. Celle qui permet une vie ouverte et que, voilà, qui nous permet d'avancer, d'aller vers devant. C'est cette confiance qui permet aussi de faire la volonté de Dieu, même lorsque celle-ci semble nous éloigner de la sécurité. Alors, vous me direz peut-être, tu sais, Jean, toi peut-être t'es pasteur, mais moi, t'es pasteur et que t'as plein de confiance, mais moi, parfois, je doute. J'ai des moments de doute. J'en rêve d'avoir cette persévérance, etc., mais voilà, je ne vis pas tout le temps. Et puis, je m'arrête assez rapidement. Alors, sachez que j'ai une confession à vous faire. Hein? Moi aussi. Parfois, ça devient difficile. Quand des choses arrivent de manière inattendue, je suis aussi troublé. Et à ce moment-là, je me ressaisis tout de suite en disant que, mais Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Et je me retourne vers le Seigneur. Oui, on peut avoir des moments de doute, mais cela ne change rien à la parole et à l'appel qui nous sont adressés. Cela ne change rien à l'espérance de Dieu que nous avons en nous, que le Seigneur nous accorde. J'aimerais terminer par la lecture de Psaume 46 qui dit « Dieu est pour nous un abri sûr, un secours toujours prêt dans la détresse. C'est pourquoi nous n'avons rien à craindre. Nous n'avons rien à craindre. Même si la terre se met à trembler, si les montagnes s'écroulent au fond des mers, si les flots grondent, bouillonnent, se soulèvent et secouent les montagnes, le Seigneur de l'univers est avec nous. Le Seigneur de l'univers est avec nous. Le Dieu de Jacob est notre forteresse. Le Dieu de Jacob est notre forteresse. C'est un abri sûr, un secours, toujours prêt dans la détresse. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous sommes parfois troublés parce que malgré notre certitude que nous suivons ta volonté, il y a des tribulations, il y a des épreuves, il y a des moments de difficulté. Et parfois, nous pouvons être déboussolés par cela. Mais nous savons aussi que si tu es présent, nous savons aussi que tu seras toujours avec nous, quoi qu'il se passe. Aide-nous vraiment à avoir une grande confiance en toi. Si nous sentons une certaine peur envahir notre cœur, aide-nous aussi à lever nos regards vers toi, non pas vers les tempêtes, comme Paul a fait. Oui, c'est vrai, Paul était prêt à affronter toutes ces difficultés, parce que il avait cette vocation d'annoncer l'Évangile, d'être obéissant à ta parole. Seigneur, pendant cette semaine que nous allons vivre, aide-nous vraiment à avoir des moments d'intimité avec toi. Quand nous traversons le désert, quand nous rencontrons des épreuves, et que tu nous donnes vraiment la paix intérieure, la sérénité. Même si la situation n'a pas changé, comme chez Paul, il était dans la joie parce qu'il faisait ta volonté. Que cette joie nous déborde, que cette sérénité puisse remplir notre cœur et que notre confiance grandisse de jour en jour. Merci Seigneur, parce que lorsque nous avons besoin de toi, lorsque nous crions à toi, tu viens en aide et que tu étends ta main bénissante, ta main de secours vers nous, Seigneur. C'est vrai que tu es un Dieu miséricordieux qui prend soin de tes enfants et nous voulons encore tourner nos regards vers toi. Aide-nous vraiment à avoir cette réflexe de tourner nos regards vers toi à tous les moments de notre vie. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Alors, c'est le temps des annonces. Vous savez que